Alors voilà, on est donc challenge littéraire. Vous avez déjà une histoire qui s'arrête juste avant l'entrée en Terre Promise. Et puis vous avez un gros bloc littéraire que vous voulez intégrer dans une continuité narrative avec cette histoire-là, mais qui ne raconte pas l'entrée dans la Terre de la Promesse, puisque ça sera après, ça sera le livre de Josué, ça sera le livre des Juges. Donc, comment faire une suture, une soudure, enfin, comment raccrocher les morceaux? Sans imaginer d'autres péripéties. Enfin, on va pas dire bah, du coup finalement Moïse décida, tiens, on va aller faire un tour, je sais pas où, à Las Vegas, et puis on va revenir. Enfin, donc vous voyez, on est déjà on est bloqué dans un lieu qu'on va jamais dépasser au niveau géographique, et pourtant vous devez intégrer 34 chapitres. Alors comment faire la suture littérairement? Et finalement ça va très bien se goupiller avec le schéma d'alliance.
De retour en arrière.
Ben voilà. Et comment c'est ça, un retour en arrière? Mais on va pas retourner en arrière. Quand on ne peut pas retourner en arrière avec les pas des pieds, on retourne en arrière. Oui, c'est-à-dire la parole et donc aussi la mémoire. Voilà, on va faire mémoire des toutes dernières étapes du trajet. Donc c'est ça qui est un peu étrange. On vient de parcourir en direct de la fin du livre des Nombres. Et voilà que le début du Deutéronome va nous re-raconter, c'est Moïse qui va dire, ben voilà ce qui s'est passé. Donc tous les premiers chapitres, les quatre premiers chapitres, c'est des trucs qu'on a encore très bien en tête quand on lit dans la continuité. Et vous voyez que astucieusement, ça nous fait la soudure. Hein. Alors, donc je suis au verset 6. Alors on va commencer, on va revenir à l'Horeb même d'ailleurs. Hein. Le Seigneur notre Dieu nous a parlé à l'Horeb, le Sinaï, c'est la même chose. Vous avez assez séjourné dans cette montagne. Allez-vous-en, partez et allez à la montagne des Amorites, chez tous ceux qui habitent la Arava, la montagne, le bas pays, le Negev. Donc Deutéronome 1, verset 6. Et le bord de la mer. Allez en terre de Canaan et au Liban, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Bon, un petit peu optimiste. C'est pas idiot quand même de suggérer que le dessein de Dieu inclut l'Euphrate. Pourquoi déjà? Oui, mais vous parlez très fort, moi je suis sourd, vous êtes à dire. Parce que, et surtout au moment où on est en train d'écrire ce truc, où est-ce qu'il y a des juifs en gros? Voilà, la plupart des. Il y a beaucoup de juifs à Babylone. Donc on va voir que ces gens-là, il ne faut pas les exclure du projet, hein, même si on est en train de reprendre possession. On va raconter la prise de possession de la terre, notamment Josué et tous ces trucs-là. Évidemment, quand vous êtes des exilés, vous revenez de Babylone. Ça vous parle très fort en fait, vite on refait ce qu'ont fait nos ancêtres. Mais il ne faut pas exclure la diaspora, ne serait-ce que parce que c'est eux qui financent le truc. Donc, alors, voici donc le pays que je vous ai donné. Allez donc prendre possession du pays que le Seigneur a promis par serment à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. Voilà, on remonte même en amont jusqu'à ces traditions patriarcales qu'on a dans la Genèse. Je vous ai dit alors, c'est toujours Moïse qui parle, « Je ne puis à moi seul me charger de vous. Le Seigneur, votre Dieu, vous a multiplié et vous voici nombreux comme les étoiles du ciel. » Tiens, ça fait penser à quoi, ça? Abraham. Donc, en gros, le Seigneur est en train d'accomplir ses promesses. Vous voyez, ça motive des gens bon, qui ont fait 3000 km depuis Babylone. Hein, on est au 5e siècle, en gros, hein, début du 5e siècle, avant Jésus-Christ. Et on est en train de se dire, bon, on va prendre un nouveau départ, mais c'est le Seigneur qui accomplit ses promesses. Le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous multipliera mille fois autant et vous bénira comme il vous l'a dit. Hein. Je bénirai qui me bénira. Donc il y a une grande bénédiction qui est synonyme de l'élection qui est accordée à Abraham. Cette bénédiction continue, elle est encore opérante, même si on est passé par des grandes tribulations. Hein. Comment donc porterai-je seul vos aigreurs, accusations et contestations? N'importe qui conduit un groupe se rend compte que c'est son pain quotidien, hein. Les contestations, les aigreurs. Il n'y a plus de beurre, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de... Bon. Prenez donc des hommes sages, perspicaces et d'expérience dans chacune de vos tribus que j'en fasse vos chefs. Vous m'avez répondu, ce que tu proposes est bon. Je pris donc vos chefs de tribus, hommes sages et d'expérience, et je vous les donnais pour chefs, chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, et scribes pour vos tribus. Alors voilà, ouais, c'est Moïse qui organise le peuple de Dieu, ça c'est... Moïse est le leader choisi par Dieu, mais ce n'est pas un pouvoir exclusif. Donc il y a un principe de réalisme, hein, quand il y a un peuple suffisamment important, peut pas être, un seul homme ne peut pas décider de tout, mais c'est aussi une légitimation mosaïque de la structure, mettons, politique de la nation israélite, puisqu'ils tiennent leur autorité de Moïse. Alors peut-être dans vos Bibles, vous avez une référence à Exode 18. Donc on vient, Exode 18, on vient vraiment de quitter là, on a encore l'eau de la mer Rouge sur les chaussures, hein, on vient de quitter. Et c'est au contact de Jéthro, hein, qui était très riche, hein, d'où son nom. Alors Jéthro, le beau-père de Moïse, qui donne le conseil à Moïse, justement, il voit que dès qu'il y a un problème, les gens vont voir Moïse, Moïse ne sait plus où donner de la tête, et Jéthro lui dit, mais pourquoi tu délègues pas? C'est une bonne idée, choisis des princes, voilà. Donc, quatre princes un peu dégourdis, et puis... Alors si on reprend, alors... Tiens, verset 21, donc là je suis en Exode 18, choisis-toi, c'est Jéthro qui parle à Moïse, choisis-toi parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, sûrs, incorruptibles, et établis-les sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Voilà. Toute affaire importante, ils te la déféreront, et toute affaire mineure, ils la jugeront eux-mêmes. Donc en gros, il y aurait un souvenir, hein, de cette... organisation du peuple. Il y a un petit détail supplémentaire là dans le Deutéronome, vous avez noté qu'il n'y a pas en Exode. Voilà les scribes, hein, très important. La figure scribale, hein, rappelons-nous que le Deutéronome, c'est depuis l'origine, là on est après l'exil, mais même depuis avant l'exil, hein, ce qui lance le Deutéronome, c'est le début de l'écriture sainte. L'écriture se généralise et bientôt on aura l'idée que la parole de Dieu se communique pas simplement oralement, quand on va voir un prêtre ou un prophète, mais elle se dépose aussi par écrit. Et les scribes gardent, alors là pour le coup, hein, on a des, pour le jugement, hein, c'est très important, hein, quand on est dans une jurisprudence écrite, donc les scribes jouent un rôle important dans la justice. Parce que si... Là, on peut dire, bon, ben écoute, telle affaire, j'ai regardé dans mes archives, il y a 10 ans, il y a eu à peu près la même chose. Voilà comment ça s'est réglé, on va appliquer le même principe. Donc vous avez aussi une espèce de principe de tradition. Et à la fois Moïse parle, on nous dit, hein, c'est les paroles de Moïse, mais il y a aussi articulation avec l'écriture. Donc vous entendrez vos frères, dit Moïse au juge, et vous rendrez la justice entre un homme et son frère ou un étranger en résidence près de lui. Vous ne ferez pas acception de personne en jugeant, mais vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez pas l'homme, car la sentence est à Dieu. Ça c'est important. Hein, je crois que, vous savez, il y a dans beaucoup de cultures anciennes, il y a l'idée que, enfin, ce qui est juste, c'est de privilégier son clan, sa tribu, sa famille, contre les autres. Bon, c'est encore le Cosa Nostra, hein. Enfin, en Sicile, c'est encore l'idée, hein. Il y a une solidarité très forte entre les membres du groupe. Et en gros, ceux qui ne font pas partie du groupe, d'une certaine manière, ils sont en dehors du champ de la justice, si vous voulez. C'est pas... Alors, je ne dis pas que c'est des mauvais hommes qui pensent comme ça, mais disons, on a... C'est une manière d'organiser les sociétés où il n'y a pas de justice universelle. Un être humain n'a pas droit à la justice simplement du fait qu'il est homme. Il est saisi que dans un réseau de communautés humaines, la famille, le clan, le village. Alors ici, on a quelque chose d'important dans la Bible, mais même dans l'histoire de l'humanité, c'est que face à Dieu, d'une certaine manière, tout homme a droit à la justice. Même s'il ne fait pas partie, vous avez comme... un étranger en résidence près de lui, donc même les gens qui ne font pas partie du peuple, ont droit à la justice. Et il y a un avertissement comme important, vous ne ferez pas exception de personne. Face aux puissants, on ne va pas favoriser le puissant parce qu'il est puissant, donc quand on est juge, il peut nous faire des cadeaux, mais on ne va pas non plus favoriser le petit, ça pourrait être une autre tentation, en organisant une clientèle, vous voyez, si vous avez des misérables, vous avez... Vous pouvez vite passer comme le bienfaiteur, hein, et puis du coup, le tribun de la plèbe, hein, c'est ça. Et après, vous faites une révolution et tout ça. Donc, il faut être, il y a vraiment un souci d'impartialité, d'objectivité, mais qui est légitimé par Dieu. Si un cas est trop difficile pour vous, vous me l'enverrez pour que je l'entende. Alors, c'est un peu étonnant, il y a une espèce de juridiction suprême, mais en fait, ça correspond à la juridiction, on le verra à d'autres endroits du Deutéronome, ça sera plus clair, mais c'est la distinction entre une juridiction purement profane, on va dire, et pour les cas trop difficiles, on va garder une médiation oraculaire, où on va au temple, et on va demander, alors notamment aux Lévites, c'est un peu leur spécialité, qu'il y a des scribes, il y a deux sortes, hein, il y a le scribe qui en gros, c'est le gars qui a fait l'ENA, et donc qui est au pouvoir du roi. Donc lui, il est... Et la justice, pareil, donc il y a une forme de, il y a une justice profane, mais vous avez un peu le pendant du côté du temple. Vous avez des scribes, alors qui eux ont plutôt fait le séminaire que l'ENA. Et ils sont aussi habilités à rendre la justice, mais un peu comme une cour d'appel suprême. Quand la justice des hommes n'arrive pas à trancher, on verra des cas concrets dans le Deutéronome, alors, il faut, de toute façon, on ne peut pas ne rien faire. On ne peut pas dire, bon ben ouais, on ne sait pas. Il faut absolument qu'une sentence soit rendue. Et donc là, on va voir le temple. Donc là, symbolisé par la personne de Moïse, et surtout les Lévites, qui sont comme les héritiers de Moïse, les scribes Lévites en particulier, et eux vont pouvoir trancher les cas les plus difficiles. Je vous prescrivis alors tout ce que vous aviez à faire. Puis alors, Moïse continue son petit discours. Nous partîmes de l'Horeb, et nous entrâmes, oui, c'est une édition de 1955, c'est un temps qui s'appelle le passé simple, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'était avant, hein, pardon, hein, moi je suis un homme du XXe siècle. Donc, grand et redoutable que vous avez vu. Alors, ce désert grand et redoutable. Hein. Dans le Deutéronome, il n'y a pas trop d'idéalisation du désert. Hein. C'est plutôt le temps de l'épreuve et de la mort. Hein. On a vu la mort de près. Nous entrâmes dans ce désert grand et redoutable que vous avez vu sur le chemin de la montagne des Amorites. Comme le Seigneur, notre Dieu, nous l'avait ordonné, nous arrivâmes à Kadesh Barnéa. Ça, c'est en plein milieu de la péninsule sinaïtique, un peu nord-est, mais donc en Égypte hein, aujourd'hui. Je vous dis alors, vous voici arrivés à cette montagne des Amorites que le Seigneur, notre Dieu, nous a donnée. Vois, le Seigneur, ton Dieu, t'a donné ce pays. Donc, comme c'est une montagne, on voit un peu loin et on voit un petit peu donc, la frontière. Hein, c'est Tabac, hein, c'est la frontière aujourd'hui entre Israël et l'Égypte. Passage de frontière difficile. Hein, le passage à Tabac, c'est réputé difficile. Donc... Vois, le Seigneur ton Dieu t'a donné ce pays, monte en prendre possession. Tiens, c'est intéressant, hein. Dieu te donne, maintenant va conquérir. Hein. C'est pas parce que Dieu te donne que tu n'as rien à faire. Ne crains pas et ne sois pas effrayé. Alors en général, quand on dit n'aie pas peur, c'est qu'il y a un gros chien baveux devant et on est surtout n'aie pas peur, parce que si tu as peur, il va te mordre. Donc, une espèce de phrase anti-effective, surtout n'aie pas peur. On se méfie, hein, donc on se dit ça va pas être si facile que ça. Hein. Si le Seigneur dit surtout n'ayez pas peur, c'est que ça va, on sent que ça va pas être simple. Vous vînt tous me trouver pour me dire envoyons devant nous des gens pour explorer le pays. Une réaction un peu mitigée finalement du peuple. Hein. On se méfie quand même un petit peu. Hein. Alors on voudrait bien voir, plutôt que d'y aller bille en tête, on voudrait bien voir par soi-même, jauger par soi-même le don de Dieu. Le narrateur le dit pas, mais enfin. Normalement, avec toute l'expérience qu'on a, puis en plus on est censé avoir lu le livre des nombres, hein, parce que là on est en nombre 13, hein, c'est nombre 13-14, on se dit que c'était pas une idée géniale en fait. Il y avait quand même déjà l'amorce d'une défiance vis-à-vis de Dieu, et ça risque de mal se terminer. Ils nous feront rapport sur la route à suivre et sur les villes où nous pourrons aller. Alors, l'avis me parut bon, dit Moïse, hein, peut-être là il a manqué un peu de discernement, et je pris parmi vous 12 hommes, un par tribu. Ils prirent la direction de la montagne, ils montèrent et atteignirent le val d'Eshkol. Alors, ça, c'est vraiment dans le nord, c'est pas à l'est du Jourdain, hein, c'est au sud, c'est au nord-est de Kadesh Barnéa, mais on entre de Kadesh dans la Terre Sainte par le chemin le plus direct, hein, qui est par le sud. Ils atteignirent le val d'Eshkol qu'ils espionnèrent. Oui, hein, c'est le Mossad hein, déjà, donc ils sont très très forts. Hein. Ils prirent avec eux des produits du pays, nous apportèrent et nous dirent. C'est un heureux pays que le Seigneur notre Dieu nous a donné. Dans le livre des nombres, on nous dit qu'ils reviennent avec une grappe portée par deux personnes. Alors la tradition juive a glosé un peu en disant, mais s'il faut se mettre à deux pour porter une grappe de raisin, donc vous avez du raisin, je pense, c'est que c'est de la toute grosse grappe. Hein. C'est devenu l'emblème du ministère du tourisme israélien. Donc c'est censé évidemment manifester la fécondité et le fait que c'est un pays de cocagne, hein, là où le Seigneur nous envoie. Donc génial, non, pas génial. Mais vous avez refusé d'y monter, dit Moïse, et vous avez été rebelle à la voix du Seigneur votre Dieu, et vous avez déblatéré dans vos tentes. Pas bien ça, en disant, C'est en haine de nous que le Seigneur nous a fait sortir du pays d'Égypte. Hein, cette grande épreuve spirituelle qu'on traîne pendant toute cette génération du désert, on n'est plus capable de déchiffrer si Dieu nous veut du bien ou nous veut du mal. Bon, ça fait partie de notre vie spirituelle. Hein. En général, on passe par une période où on se dit Dieu me veut du bien, formidable, par exemple, tiens, j'ai une magnifique vocation, je vais entrer chez les bénédictins, je vais me marier, et puis alors que Dieu est bon, donc on chante et tout ça, puis 20 ans après, ça va mal, on a envie de se barrer, de divorcer, de je sais pas quoi, toujours éprouvé dans sa vocation, on dit mais en fait Dieu m'a voulu du mal, vous voyez, hein. Grande épreuve, on n'est plus capable, les signes s'inversent, on a du mal à déchiffrer qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, pas abstraitement, ça c'est trop facile abstraitement, mais dans sa vie très concrète. Donc, grande épreuve spirituelle. Alors, pourquoi Dieu aurait fait ça? Pour nous livrer au pouvoir des Amorites et pour nous détruire. Vous voyez, comme vraiment, mais c'est terrible, hein, le Seigneur qui prend un ramassis d'esclaves et qui en fait un peuple, et dans le cerveau embrumé des Israélites, ça devient, il veut nous détruire, en fait. Il n'a que haine pour nous. Pourquoi? Ben, c'est pas très bien, enfin, c'est absurde. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait détruire ça? Mais quand on est dans ce piège spirituel, finalement, on perd la raison, hein. En tout cas, la raison spirituelle. Hein. Où nous fait-on monter? Nos frères nous ont découragés en disant « C'est un peuple plus grand et de plus haute stature que nous. Les villes sont grandes et leurs remparts montent jusqu'au ciel. » Et même, nous y avons vu des anakims. Hein. Ces anakims, c'est... Ces gens, c'est les géants, hein, c'est le reliquat de l'union des anges avec les femmes. Ça nous est raconté en Genèse 6. Et ça donne des espèces de demi-dieux, des mecs qui font 20 mètres de haut, très très costauds et pas très malins. Donc c'est dangereux. On n'a pas envie d'être en voisinage de ces gens-là. Le pays est génial, mais les habitants sont terribles. Alors, toujours pareil, hein, on peut prendre ça à la surface du récit, et c'est déjà porteur de vérité spirituelle. Après, je peux abattre la carte de l'exégèse historico-critique et de dire ce livre s'adresse particulièrement à la petite communauté qui revient de Babylone. Et ils arrivent, c'est pas une terre vierge, en fait, il y a des gens de toutes sortes, il y a des gens qui ne sont pas partis en exil et qui sont bien organisés, et qui sont du même peuple, mais... qui ont, par exemple, ont pris les terres, ont pris les trucs, puis on revient en disant, bah tiens, ça c'était la maison de Pépé, mais c'est déjà, c'est le gars, enfin, la maison de Pépé, il y a un type qui est depuis deux générations, il n'a pas envie de la laisser. Et puis, c'est déjà organisé, donc vous voyez, on est quand même, c'est pas très facile quand vous revenez de Babylone, et que vous dites, salut les gars, en fait c'est la nouvelle alliance, vous allez voir, je pense qu'après quelques déceptions, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu nous demande de revenir? On était très bien à Babylone. À Babylone, on vit assez bien. Les Juifs, ils sont bien débrouillés. Ils ont occupé des hauts postes dans l'administration. Dans la banque aussi, on a des attestations très anciennes de prêts accordés par... c'est l'élite, hein, à Babylone. Hein. Donc vous revenez en Terre Sainte, vous dites, mais bon, pourquoi? Il y a les Anakim. Alors, c'est pas des géants, mais on est tellement faible que n'importe quel... structure déjà organisée nous apparaît comme indestructible. Psychologiquement, ça fait écho à l'expérience de la petite communauté qu'on appelle la Gola. Hein. La Gola, c'est la dispersion, mais c'est surtout, ensuite, c'est ceux qui reviennent sur en Terre Sainte. Alors, Moïse, qu'est-ce qu'il va faire de... Ne tremblez pas, n'ayez pas peur d'eux. Hein. Donc voilà, si t'as peur, il va te mordre. Le Seigneur, votre Dieu, qui marche à votre tête, combattra pour vous, tout comme vous l'avez vu faire en Égypte. Grande idée du Deutéronome, hein, c'est pas seulement, mais les guerres, quand vous, ce que vous avez à faire pour Dieu, c'est Dieu qui le fait pour vous. C'est ça la foi. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, Dieu le fera pour vous. Même si ça a l'air infaisable, Dieu, c'est bien comme ça que tout au long de l'histoire de l'Église, le christianisme a pu faire des choses incroyables. Enfin, une poignée d'hommes ou de femmes ont réalisé des trucs, on se dit mais comment ils ont réussi, enfin, ils avaient toutes les raisons de se décourager, mais si c'est des choses que vous faites pour Dieu, Dieu le fera pour vous. Tu l'as vu au désert, le Seigneur ton Dieu te soutenait comme un homme soutient son fils tout au long de la route que vous avez suivie jusqu'ici. Hein, vraiment une très belle image, une très belle expérience spirituelle d'Israël. Tu Tu es comme le fils, tu es comme un fils pour Dieu. Mais en cette circonstance, aucun d'entre vous ne crut en Yahvé, oh, pardon, par on ne crut au Seigneur votre Dieu. Lui qui vous précédait sur la route pour vous chercher un lieu de campement. Hein, c'est exactement ce que faisait tout à l'heure Xavier au téléphone. Hein, vous n'en rendiez pas compte, mais il était là. Il se passait beaucoup de choses à l'avant. Vous marchiez en chantant. Et à l'avant, ah bon, c'est pas possible, le camping est plein, mais alors où on va aller? Et puis tout à l'heure, de manière très très sûre, comme si tout allait bien. Alors voilà, c'est là où on va, mais on a changé 10 fois de lieu de camping. Bon, ben, Xavier, c'est Dieu, quelque part. Hein. Voilà, Dieu, Dieu nous précède sur la route pour chercher un lieu de campement dans le feu pendant la nuit pour éclairer votre route et dans la nuit pendant le jour. Hein. Même l'attention, quasiment ce que dit Jésus, hein. Vos cheveux même sont comptés. Hein. Dans mon cas, c'est pas un très gros exploit. Hein. Mais Dieu prend soin. Pourquoi est-ce que lumière la nuit? Ben, parce qu'il faut qu'on voie où on met les pas. Et pourquoi une nuée le jour? Ça sert de casquette. Ça protège... Ça protège du soleil. Là, le Seigneur prend soin de son peuple. Tiens, feu et nuée, aussi, ça fait penser à quoi? Où est-ce qu'on voit du feu et de la fumée?
Donc, c'est pas la sortie d'Égypte, non?
Oui, alors, absolument, mais c'est ça. Là, on fait allusion à ça, mais de manière plus habituelle. Oui, c'est ça. Là, on reprend, ça, c'est un grand classique. Hein, c'est que on reprend toujours les mêmes éléments théophaniques, que ce soit au sommet du Sinaï, la trompette, c'est, on a ça, le Yom Kippour, le Shabbat. La fumée, c'est l'encens, le feu, bon ben là, c'est le feu de l'autel. Le Seigneur entendit le son de vos paroles, et dans sa colère, il fit ce serment à. On sent que ça va pas le faire là. Pas un seul de ces hommes de cette génération perverse ne verra cet heureux pays que j'ai juré de donner à vos pères, génération mauvaise et adultère. Hein, là, surtout Matthieu joue beaucoup, ça Matthieu joue beaucoup sur cette thématique. Hein. La génération qui a eu peut-être en direct la grâce du salut, c'est la pire. Il faut que, alors du coup, il n'y a rien à en faire. Cela, il faut qu'il crève et on fera quelque chose d'un peu meilleur avec la génération d'après. Pas vous, mais vos fils. Donc, pas un seul de ces hommes de cette génération perverse ne verra cet heureux pays que j'ai juré de donner à vos pères. Une génération, c'est combien d'années dans la Bible?
Une centaine d'années.
Non, c'est 40 ans, une génération. 40 ans dans la Bible, hein. Combien de temps on est resté au désert? 40 ans. Combien de temps entre la mort de Jésus et la destruction du temple? 40 ans. Hein. Donc ça, Saint Matthieu, ça l'a beaucoup. Pour lui, c'est la même chose. Hein. Et aussi pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux. 40 ans, leur génération m'a déçu. À cause de vous, alors ça, très important, le Seigneur, c'est Moïse qui parle, s'irrita même contre moi et me dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. Alors là, on a un thème qui revient régulièrement dans le livre du Deutéronome, c'est le fait que Dieu, à cause du peuple qui a la mitraide, Dieu est allé jusqu'à s'irriter contre Moïse et a privé Moïse du bonheur d'entrer en terre promise. Moïse n'est pas coupable du péché des Israélites, puisqu'au contraire, lui, il les encourage, il dit « mais allez-y ». Prenez possession, c'est très bien pour vous. Donc, on va dire, il y a quand même quelque chose d'injuste. Vous voyez, quelque chose de... Ça nous pose, ça a l'air de rien, mais c'est très étonnant, hein, ce passage. Et ça revient régulièrement où Moïse, alors, on verra, hein, dit, mais c'est à cause de vous que le Seigneur... C'est à cause de vous, c'est votre faute, et du coup, le Seigneur m'en veut à moi, Moïse. Hein, comme si la faute des Israélites rejaillissait sur le guide. Alors, ça, si on va voir dans le livre des Nombres, hein, globalement, hein, dans l'économie du Pentateuque, c'est le livre de l'épreuve et de l'infidélité. C'est le moment où, justement, on a déjà vécu... Il y a souvent une réédition de ce qu'on a dans l'Exode, mais dans l'Exode, ça se passait bien. Par exemple, le peuple a soif, on a soif, il dit. Alors, Dieu dit à Moïse, bon, ben, prends ton bâton, tape sur un rocher et il y a de l'eau. Et du coup, on n'a plus soif. On a soif dans le livre des Nombres, et puis là, ça se passe mal. Il y a souvent les mêmes événements, mais c'est comme si il y avait un défaut de croissance, un défaut de maturité. Et ce qui s'était bien passé dans le livre des Nombres, on a la version assombrie, dans le livre de l'Exode, pardon, on a la version assombrie dans le livre des Nombres. C'est un livre dur, le livre des Nombres, c'est le livre du péché. C'est le livre où on se rend compte qu'on n'est pas à la hauteur du don de Dieu, qu'on est infidèle à sa vocation. Alors justement, le péché de Moïse, un grand thème un peu bizarre de la Torah. Pourquoi est-ce que Moïse n'entre pas en terre de la promesse, celui qui a tout bon quand même, Moïse? Alors, si on va voir dans justement ce que je retrouve. Que je retrouve le passage, je vais le retrouver, il faut surtout que je m'arrête. Ah voilà, c'est au nombre 20. Dans la tradition juive, en tout cas, on a quand même essayé, et face à ce mystère, vous avez deux interprétations. Ou bien l'interprétation fataliste, ou en tout cas de dire, bon, bah, c'est Dieu. On ne comprend pas bien pourquoi est-ce qu'il a puni l'innocent avec le coupable. Mais enfin voilà, il a le droit de. Ça l'a tellement énervé ces Israélites que du coup il a passé ses nerfs sur Moïse et c'est comme ça. Ou vous avez l'autre tendance, c'est-à-dire mais il y a peut-être un péché caché de Moïse et donc on va chercher des moments où effectivement Moïse aurait lui-même déconné un petit peu. Vous voyez, c'est une manière d'innocenter Dieu de ce châtiment. Tiens, bon. À votre avis, quels sont les avantages, les inconvénients? D'abord, vous voyez bien les deux tendances. Hein. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux tendances? Si vous choisissez la tendance, on va essayer de trouver la faute de Moïse. Il a sûrement il a dû maquiller les comptes, ou il a dû faire un truc pas très visible. Mais on va finir par trouver, à un moment donné, où il a merdé. Et du coup, ça explique pourquoi est-ce que Dieu l'a puni. Quel est l'avantage, quel est l'inconvénient? Voilà, donc qu'est-ce que tu dis? Voilà, ça innocente Dieu de l'accusation d'injustice. Mais ça présente aussi un inconvénient, alors qui est un peu plus spirituel aujourd'hui. Alors nous, on est beaucoup dans cette ligne aujourd'hui. Hein, on veut que tout soit bien égal, tout soit bien juste. On est passionné par l'égalité, comme disait Tocqueville, et d'ailleurs on en crèvera, mais ça me fera bien rigoler d'ailleurs. Mais donc on veut que tout soit bien égal, qu'on ait tous le même truc. Enfin, l'élection, ça nous énerve d'ailleurs. On ne voudrait pas qu'il y ait Moïse, on voudrait que tout le monde soit Moïse. L'inconvénient de dire on a mis la main sur le fait et donc Dieu n'a fait que ratifier, que dévoiler un truc qu'on avait peut-être un peu oublié. Quelle image de Dieu ça vous donne? Voilà, bravo, mais c'est très bien clair, bravo, bravo. Ça nous fait un Dieu qui est juste, mais c'est quand même. C'est important quand même. Je veux dire, c'est quand même une idée théologique importante. Il faut que la justice de Dieu, il faut quand même d'une manière ou d'une autre, ça apparaisse comme ayant une certaine affinité avec la justice des hommes. Mais si on va trop loin là-dedans, c'est qu'on peut se dire, bon, ben, est-ce que Dieu, il est vraiment différent d'un homme? À la limite, on pourrait tomber dans l'interprétation de Feuerbach et de dire, Dieu, c'est une manière de parler de la justice des hommes, en fait, pour marquer le coup, mais au fond, c'est juste la justice des hommes. Si on garde l'autre ligne, alors bon, ben, du coup, ça va être inversé. Quel est l'avantage, quel est l'inconvénient? L'avantage,
c'est qu'il est autre.
Voilà, il est autre, ça préserve le sens du mystère. Bon, bah ok, on accepte que Moïse, ça nous paraît, je ne te dis pas que ce n'est pas injuste, je te dis que ça soulage. Ça, c'est dans les tontons flingueurs à la fin quand il va buter. Alors on accepte que l'action de Dieu dépasse notre intelligence. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de profond. Religieusement, vous voyez, d'accepter que nous ne sommes pas à la mesure, c'est pas à nous de donner des bons points ou des mauvais points à Dieu. Enfin, il y a quand même quelque chose de parfaitement impie de vouloir dire comme ça à Dieu, là c'est bien, là t'as fait bien, là t'as fait pas bien. Donc attention, hein, Dieu, hein, la prochaine fois faudra mieux faire. Hein. Je te mets la moyenne, mais attention. L'inconvénient, donc ça préserve le sens du mystère. Alors en plus pour nous chrétiens, où est-ce qu'on va voir que le Dieu préparait quand même le terrain? C'est que cette idée que il y a un mec qui morfle alors que bon, il est un peu. Voilà, il y a quand même, on se dit, mais en fait, Moïse était une figure du Christ finalement. Là où on se disait ce pauvre Moïse, pour nous chrétiens, on dit, mais c'est là où il est peut-être le plus grand finalement, parce que c'est là où il est la figure de la plus parlante du Christ. L'inconvénient. Alors, absurde, en tout cas, ça peut paraître arbitraire. Hein. Et au bout d'un moment, ça peut être dangereux. Un Dieu qui est uniquement arbitraire, on finit par cesser d'y croire. Donc vous voyez que dans ces deux options, il y a une polarité qu'il va falloir conserver, c'est inhérent à la vie spirituelle. Tiens, je vous pose une question de la vocation. Bon, alors est-ce que, alors je vais dire, bon, j'aime bien la vie liturgique, j'aime bien bouger aussi, j'aime bien faire des voyages. Est-ce que pour guider le choix de ma réponse à la vocation, est-ce que je vais plutôt me baser sur mes tendances spontanées. Donc là, je valorise le côté humain en me disant, bah, mais si je fais que ça, alors ma vocation, c'est juste ça ratifie mes goûts, quoi, en fait. Hein. Mmh. Tiens, j'aime bien jouer au loto. Ma vocation, ça va être de jouer au loto. Enfin, vous voyez qu'au bout d'un moment, c'est absurde. Mais si je dis simplement, bon, bah, puisque c'est surnaturel, ça prend tout le contraire du truc. Donc, je déteste la vie communautaire, donc je vais aller dans une communauté. Je déteste le latin, donc je vais aller chez des tradis. Je déteste. Et comme ça, je serais bien sûr que ça vient de Dieu. On se dit, mais ça va terminer en catastrophe aussi. Vous voyez. Donc, il y a toujours cette polarité à assumer. Et en fait, on l'a, ça nous, il faut la garder parce qu'elle se résout qu'existentiellement. On n'aura jamais un Dieu équilibré au plan rationnel. Ça sera la pire des idoles. Ça s'appelle le modernisme, le progressisme, le rationalisme, enfin tous les ismes. Hein. L'églisme, enfin tous les ismes, c'est... cette polarité se résout dans la singularité de mon existence. Mais c'est vrai que dans ma vie, à un moment donné, je dois pouvoir dire... dans ma vie, il faut que je puisse dire à tel moment, c'est plutôt... comment dire, le fait que Dieu est à l'origine de ma nature qui est valorisé. Et puis il y a des moments aussi où c'est... Je vois que Dieu a vraiment transcendé ce que je pouvais faire. Si je peux vous donner un exemple personnel, mais en fait, ça n'a aucun intérêt. Mais dans mon cas personnel, donc, qui est vraiment absolument inimportant, mais ce que je vois, il y a un côté vraiment Dieu, je pense, a trouvé quelque chose qui correspond à ce que je suis, c'est le côté un peu intello, même si je ne peux pas dire que j'ai un immense succès sur la sphère intellectuelle mondiale, mais enfin... C'est quand même mon boulot de faire cours à des séminaristes à l'alphabet, donc bon, si je suis aumônier. Donc je me dis, voilà, j'ai fait des maths, j'adorais ça. Bon, maintenant je fais de la philo, de la théologie. Bon, je travaille l'écriture sainte, qui est la grande joie de ma vie. Je vois bien que Dieu a décuplé quelque chose que j'avais en moi. Par contre, un truc qu'il m'a donné de manière parfaitement inattendue, c'est le fait de pouvoir parler à des gens. Enfin, j'étais d'une timidité maladie quand même. Il y aurait sûrement des pathologies psychologiques sérieuses qu'on aurait pu déclarer à mon sujet il y a quelques années. Et c'est un peu un miracle, mais au séminaire, le Seigneur m'a complètement guéri de ça, à tel point qu'un des trucs que j'aime le mieux faire aujourd'hui, c'est prêcher. Alors que c'était horrible quand j'étais étudiant, mais c'était même pas un groupe, hein, quand quelqu'un m'adressait la parole, j'avais envie de partir dans l'autre direction, tellement c'était, je ressentais ça comme une agression. Donc bon, je vois bien que dans ma vie de prêtre, Dieu m'a donné un truc qui transcendait complètement ma nature et en même temps il a valorisé ce qui est... Bon, ça ne prouve pas que c'est bien, mais disons, je pense que globalement on aura toujours les deux pôles dans son existence. Je termine rapidement ce chapitre. Alors là, donc oui, le côté... alors le Deutéronome, on voit qu'il a plutôt valorisé le côté mystère. On n'aura jamais l'explication. La seule explication, mais qui n'en est pas une, c'est que Moïse dit aux Israélites, bande de saligots, c'est votre faute. C'est pas une explication, c'est à cause de vous que le Seigneur s'est irrité. Mais dans la tradition juive, et ça c'est très souvent comme ça la tradition juive, en gros, hein, les catholiques ont plutôt tendance, les chrétiens, à valoriser le côté deutéronome. Et la tradition juive, rabbinique en tout cas, a toujours tendance à dire, mais l'autre Dieu est juste et donc ça s'explique humainement. Eux, ils ont expliqué ça par l'épisode des eaux de Meriba en nombre 20, où la communauté d'Israël a soif et Dieu, comme en Exode, il râle, comme en Exode, et Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, le rameau, rassemble la communauté, toi et ton frère Aaron, puis sous leurs yeux, dites à ce rocher qu'il donne ses eaux. Tiens, c'est marrant, hein, c'est une drôle d'expression. Hein. Presque comme une femme qui enfante. Hein. Tu feras jaillir pour eux de l'eau de ce rocher, tu feras boire la communauté et son bétail. Moïse prit le rameau de devant le Seigneur comme il le lui avait commandé. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, je suis nombre 20 là. Hein. Et puis il leur dit, écoutez donc, rebelles, ferons-nous jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ? Moïse leva la main et avec le rameau frappa le rocher par deux fois. L'eau jaillit en abondance, la communauté et son bétail purent boire. Génial. Non, pas du tout, pas génial. Verset 12, le Seigneur dit alors à Moïse et à Aaron, bande d'enfoirés, non pardon, puisque vous ne m'avez pas cru capable de me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc les rabbins disent en fait, c'est ici que ça s'est joué. Moïse, alors eux ils disent Moïse a eu comme une espèce de mécanisme psychologique de protection, et il a voulu effacer de sa mémoire sa propre faute, et en fait c'est lui qui la colle sur le dos des Israélites, en oubliant sa faute. Mais il a fauté. Et sa faute, c'était ici. Alors, c'était quoi la faute de Moïse dans le petit récit que je vous ai dit? Hein? Alors, frapper deux fois plutôt que... Alors, on peut dire, il a frappé deux fois, il aurait dû frapper une. C'est une explication qu'on a chez les rabbins, ils en donnent plusieurs. Hein. Une fois, je crois, deux fois, c'est moi quand je quitte ma porte, où je vérifie cinq fois que ma porte est verrouillée, bon, on appelle un toc. Ça sert à rien, si tu as verrouillé une fois, ça sert à rien de redéverrouiller puis reverrouiller. Il ne faut pas frapper deux fois. Alors là, tu pourrais essayer de défendre Moïse, c'est peut-être comme... Mais, une explication, en tout cas, c'est celle de Marguerite. Dans la tradition juive, c'est de dire il aurait dû frapper qu'une fois. Autre explication, qu'est-ce que Dieu lui a dit?
Il aurait dû frapper trois fois.
Est-ce que Dieu lui a dit de frapper?
Il lui a dit simplement de parler.
Voilà. Et pourquoi est-ce que Moïse a frappé?
Comme
la dernière fois. C'est-à-dire que Moïse, bêtement, s'est dit avec Dieu, c'est toujours la même chose. Et il n'a pas compris que Dieu pouvait donner le même bien par des modalités différentes. Alors, comme Dieu est quand même sympa, il a fait boire. Mais vous comprenez bien qu'il ne faut pas laisser passer une connerie pareille de la part de Moïse. Action, réaction. Ou alors, encore une explication. Donc il y a trois explications différentes. Hein. C'est la manière dont Moïse a présenté la chose. Ferons-nous jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Comme si, en fait, ça traduisait de la part de Moïse. Moïse aurait été le premier surpris, en fait. Lui-même n'y croyait pas. Il a frappé le rocher en disant « Mais vous croyez que c'est facile? Moi, je frappe ça et ça va sortir l'eau ?»« Ah bah oui, tiens, il y a eau qui sort. » Donc, ça serait aussi... Donc, en gros, peu importe l'explication, mais il a fauté. Alors, c'est comme ça que la tradition juive interprète et donc voit Deutéronome redouble la faute, si vous voulez, puisque après avoir fauté, il essaye d'effacer de sa mémoire son péché. C'est ton serviteur, je reviens au Deutéronome et on va m'arrêter là, c'est ton serviteur José, fils de Noun, qui entrera. Affermis-le. Car c'est lui qui devra vous mettre en possession du pays, mais vos petits-enfants, vous avez prétendu qu'ils allaient être livrés en butin. Vos fils, qui ne savent pas encore discerner le bien et le mal, ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Voilà. Alors après, à la fin du chapitre 1, Moïse rappelle que, après avoir entendu ce châtiment de Dieu, les Israélites ont dit non, mais du coup, finalement, on va faire comme il avait dit, on va prendre possession du pays. Ils y sont allés, ils se sont fait ratatiner, ce qui est encore une autre manière de dire, mais Moïse leur a dit, mais faites pas ça, Dieu sera pas avec vous. Et ils y sont allés, et bing, ils se sont pris d'énormes branlées, et donc ça montre bien que il faut faire les choses avec Dieu au moment où Dieu le veut. Si on n'est plus avec Dieu, alors là, pour le coup, les Anakim, ils se sont fait plaisir, là, hein, donc ils sont... Ok. Allez, on a lu le premier chapitre du Deutéronome. Yeah.